Elle est devenue le symbole de la France en général et de Paris en particulier. Mais la Tour Eiffel, avant de s'imposer comme un des 10 monuments les plus célèbres de la planète, a d'abord été un projet fou, puis un chantier phénoménal. C'est cette aventure des débuts de la tour qui m'intéresse plus que tout. Et tant mieux si, en revivant la naissance de cette grande dame, nous tordons le cou à un certain nombre d'idées fausses, à commencer par la paternité du monument. Tout le monde parle du chef-d'œuvre de Monsieur Eiffel et on pense généralement que la tour a été imaginée, conçue, dessinée par Gustave Eiffel. Erreur, grossière erreur. Gustave Eiffel est bien celui qui a construit cette tour, mais il ne l'a pas du tout inventée. L'idée en revient à deux inconnus, des inconnus qui ne le seront plus pour vous dans un instant. Tout commence en 1884, sous la Troisième République triomphante, alors que Jules Ferry, le père de l'école républicaine, est président du Conseil. La France vénère à cette époque Victor Hugo, vous savez qu'il mourra l'année suivante, au sommet de sa gloire. La France vient d'établir la liberté syndicale, elle vient de rétablir le droit au divorce. À présent, elle entend bien transmettre ses idéaux au monde entier à travers un empire colonial en pleine expansion. Or, il faut avoir ça à l'esprit, au premier rang des idéaux républicains de l'époque, il y a le progrès technique. Et notamment, en plus du chemin de fer, de l'industrie lourde, du commerce international, et allant de pair avec eux, une nouvelle forme d'architecture qui s'appuie sur l'essor de la sidérurgie, l'architecture métallique. Pensez aux gares de l'époque, aux grands magasins avec leurs charpentes d'acier, aux halles, aux ponts et à toutes sortes d'ouvrages d'art. Alors, je ne vous apprends rien, l'un des grands spécialistes français de cette architecture métallique, c'est un ingénieur de centrale, encore assez jeune à l'époque, il a la cinquantaine, et qui a installé ses ateliers à Levallois-Perret depuis une vingtaine d'années, j'ai nommé Gustave Eiffel. Or, en ce milieu des années 1880, les ingénieurs de la société Eiffel font assaut d'imagination dans la perspective d'un grand événement qui s'annonce. Tout le monde prépare en effet le centenaire de la Révolution française, le centenaire qui sera célébré en 1889 par une exposition universelle. Puisqu'il faut voir grand, certains se sont dit « et pourquoi pas une tour ?» Une tour, mettons, de 300 mètres. Pourquoi 300 mètres? Eh bien parce que 300 mètres, ça fait 1000 pieds. Et que l'idée de construire une tour de 1000 pieds de haut est déjà dans l'air depuis pas mal de temps chez les anglo-saxons. On en parlait en Angleterre dès 1833. On avait failli le faire à Philadelphie en 1876 pour l'Expo universelle, justement, mais les crédits avaient manqué. Dans les bureaux d'études chez Eiffel, Émile Nouguier et Maurice Koechlin ont développé leur propre projet. Autant le dire cependant, leur patron n'a pas sauté de joie en découvrant leur plan. Monsieur Eiffel va les autoriser à pousser plus loin leur étude, tout en leur signifiant qu'ils ne doivent pas compter sur son implication dans le projet. Disons-le, au premier abord, Eiffel est passé à côté de la tour. Pour autant, les deux ingénieurs ne vont pas se décourager. Ils décident de peaufiner leur projet. Ils demandent à un architecte d'habiller un peu leur première structure, qui était un petit peu sèche, il faut bien le dire. L'architecte en question s'appelle Sauvestre. Il couvre le dessin initial d'arcs, de ferronneries, de tabliers, bref, de toutes sortes de fioritures. Et voilà que, redessiné sous cette forme, le projet se met à plaire davantage à Gustave Eiffel. C'est étrange, n'est-ce pas? Ça vous paraîtra moins étrange quand je vous aurai dit qu'entre-temps, en novembre 84, le président de la République vient de signer les décrets lançant l'exposition universelle de 1889. Et là, d'un seul coup, Gustave Eiffel est intéressé. Il décide de s'associer à Nouguier et Koechlin. Il faut dire qu'il sait y faire, Monsieur Eiffel. Une petite signature, un dépôt de brevet, de belles indemnités, un rachat de parts dans les règles. Et maintenant, eh bien maintenant, on peut dire que cette tour, ça y est, c'est son affaire. Gustave Eiffel va devoir se battre pour faire accepter l'idée d'une tour gigantesque construite comme ça en plein Paris. Mais ça, on peut dire que c'est son domaine et qu'il est à son affaire. Il possède en effet le talent de façonner les opinions, de fédérer les énergies, de mettre en œuvre les ardeurs. Il s'y emploie avec toute la hargne dont on le sait capable. C'est ainsi, Eiffel peut déplacer des montagnes. Et ça, toute sa vie le prouve. Il a raté Polytechnique, il n'a pas vraiment brillé à Centrale, mais il a su très jeune faire carrière dans l'aménagement ferroviaire, puis dans l'architecture métallique. Il a su créer sa propre entreprise, la faire fructifier, non seulement en France, mais également à l'étranger. Parallèlement, il confiait à sa mère le soin de lui trouver une épouse efficace à laquelle il allait faire 5 beaux enfants. Si j'ose dire, il y a un plan de carrière dans la tête de Gustave, comme il y a un emploi du temps, une grille de commandes, un échéancier commercial, un programme de chantier. Bref, cet homme-là est l'enfant à la fois du positivisme et de son époque efficace. C'est un enfant très ambitieux et qui ne doute de rien. Or, dans son entreprise de propagande tous azimuts, Gustave Eiffel joue sur deux tableaux à la fois, le symbole et l'instrument. Le symbole, c'est celui du progrès en mouvement, c'est le symbole de la révolution, tout simplement. L'instrument, c'est la station scientifique d'altitude dont on avait besoin dans Paris depuis longtemps. Tout en faisant campagne pour sa tour, Eiffel garde un œil sur la concurrence, car s'il a appris une chose dans sa carrière qui est déjà longue, c'est qu'il ne suffit pas de présenter le bon projet. Encore faut-il que les concurrents ne vous savonnent pas la planche. Ici intervient un personnage essentiel et qui, à sa façon, va faire autant pour le succès de la tour que Gustave Eiffel lui-même. Cet homme s'appelle Édouard Locroy. Il est ministre du Commerce et commissaire général de l'Exposition universelle. C'est un homme habile, c'est un républicain franc-maçon, comme il y en a tellement à cette époque, et qui préfère nettement Eiffel à ses concurrents. Ce qui fait qu'il va lui confectionner un cahier des charges exactement sur mesure. Le cahier des charges, il est fait pour lui. Les candidats vont devoir, je cite, édifier une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté, autant dresser un portrait robot du projet d'Eiffel lui-même. Évidemment, la grande question qui agite à ce moment-là les Parisiens, c'est celle de l'emplacement de la tour. Où est-ce qu'on va bien pouvoir caser cette espèce d'énorme construction de ferraille ? Est-ce qu'il va falloir lui faire escalader le Mont Valérien ou bien enjamber la Seine ? Assez vite, c'est la vaste esplanade du Champ de Mars qui s'impose. Gustave Eiffel n'a rien contre, va pour le Champ de Mars. Seulement maintenant, il faut trouver des fonds. L'État va subventionner le projet à hauteur d'1,5 million, mais le devis est estimé à 6,5 millions. Il reste donc 5 millions à trouver. C'est énorme, 5 millions de francs or à cette époque. Il va falloir fonder une société anonyme dont évidemment Eiffel rafle la moitié du capital. Le 8 janvier 1887, la convention de chantier est signée. Le plan définitif a beaucoup allégé la tour par rapport au dessin de Sauvestre. On en revient en fait à un schéma qui est beaucoup plus pur, qui correspond grosso modo à ce que nous voyons aujourd'hui et qui était déjà sur les plans de Nouguier et de Koechlin. Sur place, le chantier s'organise déjà quand, patatras, en février 1887, surgit le premier gros obstacle. Dans le journal Le Temps, tout un chapelet de hautes personnalités lance une protestation solennelle contre la construction hors de mesure de M. Eiffel. Et on peut lire parmi les signatures, entre autres, celle de Maupassant, celle de Gounod, celle de Charles Garnier, enfin bref, de grosses pointures. Et comme si ça ne suffisait pas, un conseiller de Paris attaque Eiffel de son côté pour le risque qu'il va faire courir à la population riveraine. Cette fois, on peut dire que Gustave est excédé. Avec cette assurance incroyable qu'il caractérise, il annonce qu'il prend sur lui, personnellement, d'indemniser les éventuelles victimes étrangères au chantier. Tous ces obstacles vont retarder un peu le projet. Mais une fois écarté, le moment est venu pour Gustave Eiffel de faire la preuve de son plus grand talent, un talent qui, à ce degré, disons-le, confine carrément au génie, son talent d'organisateur. Avec cet homme, tout est pensé à l'avance, de sorte que même les tâches les plus difficiles en apparence se trouvent réduites à une somme de tâches finalement assez simples quand vous les prenez une par une et quand vous les regardez séparément. C'est assez fascinant ce qui est en train de se passer. Le 1er juillet 1887, on se met à assembler sur place les premières pièces métalliques. C'est un jeu de construction, si vous voulez, qui commence, et qui commence sans perdre de temps, naturellement, mais sans précipitation non plus. Ce qu'il faut bien comprendre concernant cette construction de la Tour Eiffel, c'est que tout, dans le plus léger détail, tout a été planifié, conçu d'avance, réalisé au sol dans les ateliers de Levallois. 18 000 éléments de moins de 5 mètres ont ainsi été préassemblés et préparés pour le montage final, au dixième, je dis bien, au dixième de millimètre près. C'est un jeu de mécano géant. Or, si l'on vous demande combien il a fallu de boulons pour assembler la tour Eiffel, ne tombez pas dans le piège, il n'en a fallu aucun parce que la tour n'est pas boulonnée, elle est rivetée. Pour ce qui est du montage des quatre piliers jusqu'à la première plateforme, des échafaudages ont été nécessaires. Or, l'opération la plus difficile, c'est précisément l'assemblage des quatre piliers au niveau du premier étage. Là, il y a un ajustement extrêmement complexe, extrêmement subtil à réaliser. Eiffel a eu l'idée de monter chaque pied sur vérin hydraulique. Et une fois que les piliers seront assemblés, eh bien, les vérins seront condamnés par des cales en acier. Ça, c'est une astuce de chantier absolument incroyable. C'est ce qui explique la réalisation aussi rapide de la tour Eiffel, et c'est ce qui est à l'origine de la légende selon laquelle la tour serait montée sur vérin. Étant parvenu jusque-là, Gustave Eiffel sait maintenant, quand je dis il sait, c'est avec la certitude des rationalistes quand il travaille sur la matière, il sait qu'il va pouvoir mener son défi jusqu'au bout. Et c'est beaucoup plus détendu qu'il parcourt maintenant ce chantier qui s'élève peu à peu dans les airs. Alors, vu du sol, évidemment, le chantier a quelque chose de fascinant. Pour toute une génération de Parisiens, cette année 1888 aura été marquée par les progrès stupéfiants, presque à vue d'œil, d'une tour qui paraît s'élever comme ça dans le ciel de Paris. Les passants s'arrêtent, ils lèvent les yeux, ils hochent la tête, et très souvent ils ne peuvent s'empêcher de rire devant la folie d'une entreprise, d'autant plus démente qu'elle paraît bien partie pour réussir. On a progressé de 10 mètres par mois, de 30 mètres quand on arrive à la flèche. Alors, il faut se représenter les conditions de travail tout à fait spéciales de ces charpentiers qui œuvrent en porte-à-faux dans le ciel, certains jours au-dessus des nuages qui couvrent la capitale. La structure est si gigantesque qu'elle crée une sorte d'univers à part entière, un monde envoûtant, un monde inquiétant aussi, et par-dessus tout, enthousiasmant. Ça n'empêche pas certains ouvriers de se plaindre des conditions de travail. Alors, des grèves éclatent, Eiffel leur répond que le travail est exactement identique et présente les mêmes risques qu'on l'effectue à 200 mètres ou bien à 50 mètres. Or, le plus grand exploit de Gustave Eiffel dans cette entreprise, c'est que contrairement à la tradition meurtrière de ce genre de chantier, celui-ci se révèle un modèle de sécurité. Un seul ouvrier mourra pour avoir commis une imprudence contraire au règlement. C'est un Italien dont Eiffel s'empressera d'indemniser la veuve avant de la renvoyer dans son pays. Les charpentiers du ciel vont maintenant pouvoir parachever le grand œuvre. Ils sont parvenus là-haut à près de 300 mètres et assemblent les tout derniers modules, notamment le bureau que M. Gustave s'est réservé au sommet de sa tour, la plateforme à 300 mètres, le grand drapeau tricolore dont la hampe fait à elle seule 20 mètres, du haut de son chef-d'œuvre achevé sans encombre, en temps et en heure. Gustave Eiffel peut triompher. Il n'a peut-être pas conçu sa tour au départ, mais en tout cas, il n'y a pas de doute, c'est bien lui qui l'a construite. Fierté supplémentaire, elle portera son nom. Les autorités avaient planché au début sur le nom qu'on pourrait bien donner à cet ouvrage. On avait parlé de tour de la Révolution, tour de l'industrie. Finalement, le maître d'œuvre a tranché. La tour s'appellera Eiffel. Jamais on n'avait vu un tel coup de publicité. Après 27 mois d'un travail magnifique, la tour Eiffel peut enfin se dresser sur le ciel de Paris. C'est une fierté incroyable pour tous ceux qui ont contribué à l'exploit. Et en même temps, c'est une formidable nouveauté livrée à la curiosité du public. J'ai beau chercher, je ne vois pas tellement d'exemples d'une architecture aussi spectaculaire depuis 1889. La tour Eiffel est ouverte au public le 15 mai de cette année révolutionnaire et elle devient d'entrée de jeu le grand pôle d'attraction de l'exposition universelle. L'ouvrage est incroyablement aérien. Si j'ose dire, il est plein de vide. Pour vous donner une idée, on s'est amusé à calculer que, si l'on devait couler la totalité du métal de la tour dans un coffrage carré dont les angles seraient à chaque pilier, eh bien, la plaque obtenue ne mesurerait que 6 mètres d'épaisseur. Vous voyez un peu à quel point on a affaire à une dentelle aérienne. En même temps, la promesse scientifique est tenue. Plusieurs laboratoires ont trouvé leur place au sommet de la tour, à proximité du bureau de Gustave Eiffel, et c'est précisément l'usage utile que l'on peut en faire qui va sauver la tour d'une démolition programmée. En effet, la concession devait expirer au 1er janvier 1910, date à laquelle la tour en toute logique aurait dû être démontée comme n'importe quel autre pavillon de l'exposition universelle. Eh bien en fait, la concession sera renouvelée pour 70 ans, notamment du fait des expériences stratégiques de TSF, c'est-à-dire de radiodiffusion, menées au sommet de la tour Eiffel. 4 ans plus tard, en 1914, on aura tout lieu de se féliciter de cette radio qui jouera un rôle stratégique majeur. Suprême élégance ! Après 25 ans d'existence, la tour Eiffel aura même trouvé son utilité.